Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. J'espère que vous allez bien en cette journée franchement douce. C'est presque le printemps. En fait, c'est un redoux. Il faut se méfier en hiver parce que le froid reviendra. Mais en attendant, on en profite. Et autour de la table, ben, Isabelle Falardeau est absente aujourd'hui. Repose-toi bien, Isabelle, et puis on espère te retrouver la semaine prochaine. Serge Bradet, bonjour.
Allô, allô.
Et puis, Daniel, oui. La chance, oui, ça va bien?
Une hésitation. Oui,
non,
ça va
j'avais
bien.
Ça va bien dans la tête.
Ah, OK.
Ça va bien, Daniel?
Ça fonctionne aussi. Oui, ça va très bien, toi-même.
Oui, merci. Alors, présentez-nous vos sujets, s'il vous plaît.
Bien, moi, je vais vous parler du typhus.
Ah oui?
Oui. C'est une maladie qu'on... quelque chose qu'on parle le moins
ça
aujourd'hui.
Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ça, oui.
Comme la peste ou les
choses. C'est un mot qui fait peur, mais oui, oui, oui. Je ne sais pas de quoi ça retourne.
Ben, je vais vous parler de ça.
D'accord.
Et en particulier de l'épidémie de typhus qui a sévi en 1847-48 avec l'arrivée des Irlandais par l'immigration irlandaise. Et en deuxième partie, je vais vous parler des noms, les noms du métro de Montréal, des stations. L'origine, c'est quoi ces personnages? C'est relié tout à des personnages historiques.
Ah oui, puis ça tombe bien avec le 375e.
Exactement.
Merci. Daniel, vous?
Je vais vous parler des musiciens qui voyagent beaucoup. Parce que ça fait une couple de fois que ça revient dans les chroniques. Et donc, j'ai trouvé un article qui parle de qui a voyagé le plus en tournée. Et en deuxième partie, ça fait un lien un peu, parce que je vais vous présenter aussi un article qui parle de « Il y a 50 ans, les Beatles offraient… » Je vais vous dire quoi.
Point de suspension! On est suspendu! Vous parlez donc du typhus.
Le typhus, et oui, oui. Le typhus, est-ce que c'est qui s'apparenterait, d'après ce que j'ai lu, les petites recherches que j'ai faites, ce n'est pas la peste, mais ce serait...
Un dérivé?
Dérivé, oui, mais un peu moins mortel, mais quand même très mortel. Là.
Bon.
Le typhus, le nom, ça vient du mot grec typhos, T-Y-P-H-O-S, pour ce qui veut dire stupeur ou torpeur. Et c'est le nom donné à un groupe de maladies similaires graves pour l'être humain. Il s'agit d'infections provoquées par les bactéries de la famille des rickettsies. La rickettsie sévit à l'état endémique chez les rongeurs qui lui servent d'hôtes, y compris les souris et les rats. Et les rats, le rat d'ailleurs, est celui qui véhicule la peste.
Porteur,
oui. Est transmise aux humains par la morsure ou piqûre d'acariens, les tiques notamment, aussi les piqûres et morsures des puces et des poux de corps. Certains de ces anthropodes, vecteurs, poux et puces, se développent plutôt là où les conditions d'hygiène sont déficientes, comme celles qu'on rencontre dans les prisons ou dans les camps de réfugiés parmi les sans-abri, ou jusqu'au milieu du 20e siècle dans les armées en campagne. Donc, on rejoint l'immigration irlandaise. Les symptômes communs à toutes les formes du typhus sont une fièvre qui peut atteindre 39 degrés centigrades, des maux de tête et un état d'hébétude et de stupeur, typhose. Dans les pays tropicaux, le typhus est souvent confondu avec la dengue.
La dengue.
La dengue, oui, la dengue. Alors, Montréal ravagé par le typhus, c'était dans la presse de dimanche, Montréal, 375 ans d'histoire. Entre mai 1847 et avril 1848, une grave épidémie de typhus, dit la fièvre des navires, décime la population des immigrants irlandais récemment arrivés à Montréal. D'autres Montréalais sont également emportés par la maladie, dont des membres des communautés religieuses qui se sont portés au secours des malades. Quelques mots pour comprendre. Septembre 1845, pour la première fois, on signale en Irlande la présence du mildiou. C'est un parasite qui s'attaque à la pomme de terre, notamment la variété Irish Lumper, qui constitue la base de l'alimentation des Irlandais. La pomme de terre, comme on le sait, est très, très, très nourrissante. Très vite, une famine sans précédent éclate. La production de pommes de terre diminue de 40 % dans le pays. C'est presque 50 %. Résultat, autour de 1 million de personnes meurent. Et elles sont près du double à quitter le pays entre 1845 et 1852. C'est donc près de 3 millions de personnes qui disparaissent d'Irlande. Des centaines de milliers d'Irlandais se dirigent vers le Québec. Un malheur n'arrivant jamais seul, des épidémies de typhus éclatent dans les navires. Cette bactérie transmise aux humains par des insectes vivant sur le dos des rongeurs se caractérise par une fièvre intense, des éruptions cutanées douloureuses et une faiblesse extrême, rappelle l'historien Martin Landry de Montréal en histoire. Malgré la quarantaine imposée à Grosse-Île sur le Saint-Laurent, des passagers porteurs de cette bactérie s'installent à Montréal, où l'épidémie éclate chez les nouveaux arrivants irlandais. Par conséquent, indique Martin Landry, les autorités montréalaises ont dû réagir rapidement pour tenter de freiner la propagation de la maladie en ville. Prises au dépourvu, afin d'éviter que les malades ne s'entassent sur les quais, elles ont décidé de placer les premiers immigrants malades dans les « sheds », des baraques à Pointe-Saint-Charles, non loin du lieu autrefois occupé par les travailleurs du canal de la Chine. Ces « sheds » font entre 100 et 200 pieds de long sur 30 à 40 pieds de large et abritent 180 couchettes faites de planches de bois et de paille. Alors, le mot « shed » a été est rentré dans notre vocabulaire.
Ensemble, oui.
Oui, on parle de la remise. Comme la remise, une « shed », dans la « shed ». Oui, c'était le, aussi le hangar dans les...
Mais « shed », on l'entend beaucoup.
Shed, encore, ouais, oui, ouais, une « shed », oui, oui. La maladie se transmet aussi dans ces baraquements. Les sœurs grises viennent au secours des malades et font le récit de la situation. Dans un document intitulé « La terrible épidémie de 1847 », on lit « Jamais langue humaine ne pouvait rendre l'affreux et repoussant spectacle qui s'offrit à leur regard. Des centaines de pestiférés, dans la saleté la plus dégoûtante, gisant pour la plupart sur le plancher nu, aux prises avec la mort et dans des souffrances que la plume se refuse à décrire. Débordées, les sœurs grises auront l'aide d'autres communautés religieuses, de médecins et d'infirmières. » Le maire de Montréal, John Easton Mills, n'est pas en reste. D'abord, c'est lui qui ordonne la construction des baraques. Et il se porte volontaire pour soigner les malades. Il paiera ce geste de sa vie le 12 novembre 1847. Cet excellent citoyen a été la victime de sa charité philanthropique et de son zèle à secourir les pauvres immigrés irlandais, écrit-on dans le journal Le Canada. Frappé du typhus il y a près d'un mois, il a souffert avec une patience et une résignation admirables les douleurs atroces de sa maladie. Sise près du port, une petite rue d'Hochelaga-Maisonneuve porte le nom de ce maire martyr, donc la rue Mills. On estime en général que quelques 6 000 immigrants irlandais sont morts du typhus en moins d'un an à Montréal. C'est beaucoup de gens. À l'entrée du pont Victoria, côté montréalais, une énorme pierre excavée au moment des travaux sert de monument à leur mémoire. Plus d'une trentaine de religieuses et religieux ont été affectés et au moins 4 sœurs de la Providence, 5 hospitalières, 5 sulpiciens et 7 sœurs grises sont décédées, ajoute Martin Landry. On sait aussi que des milliers d'autres immigrants ont dû être hospitalisés pour être soignés. Alors voilà, c'était la petite histoire du typhus de 1847-48.
Et on a trouvé un remède, j'imagine?
Aujourd'hui, il y a un vaccin pour le typhus, mais quand même, on dit dans les... j'ai regardé sur Wikipédia, et il y aurait entre... quand une épidémie, un typhus se déclare, il faut agir rapidement avec un antibiotique parce que les décès sont quand même entre 10 et 60 %.
Ça peut arriver encore aujourd'hui.
Oui, ça peut arriver encore. Mais ça arrive évidemment dans des zones de guerre. C'est arrivé à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et il y aura encore des cas de typhus dans des contrées où il y a des guerres qui sévissent. Mais évidemment, ça ne rejouait pas l'épidémie qu'il y a eu à ce moment-là. Mm-hmm. Mais c'est quand même une maladie qui existe encore. Et ce qui est plus inquiétant que j'ai lu, c'est que des historiens ont dit, écoutez, ça pourrait devenir une maladie bactériologique qu'on pourrait utiliser pour la bactérie.
Comme la guerre.
Comme une guerre bactériologique.
Oh, inquiétant, ça.
Oui, j'ai lu un livre il y a quelques années où on parlait de recherches qui avaient été faites en Russie. Sous l'époque, à l'époque du rideau de fer, du communisme. Et il y avait ça, le typhus, je me rappelle, mais une autre maladie.
Mais
par exemple, la variole.
Oui.
Variole qui pourrait, qui avait été, qui aurait été éradiquée, mais dont on aurait gardé un échantillon en quelque part, et on pourrait, et on avait fait des tests en Russie, ça c'est assez
horrible. Il y a quelques années, on en a entendu parler.
Oui, ils ont tué des populations dans des villages, et c'est tellement immense la Russie, puis à l'époque soviétique, c'était comme très caché. Alors, on n'a jamais su vraiment, mais le livre avait été écrit par un scientifique russe qui avait participé à ces expériences-là, et il avait émigré aux États-Unis, et il avait écrit son livre aux États-Unis, puis il racontait...
Il y a eu des romans de fiction aussi sur les armes bactériologiques où on utilisait le virus Ebola.
Mais là, ici, la fiction rejoint la réalité ou la réalité rejoint la fiction.
C'est inquiétant, des fois, parce que ça pourrait se faire.
On n'est pas à l'abri de ça.
Le titre de l'article, l'épidémie de typhus chez les immigrants irlandais entre 1847-1848 à Montréal, c'était dans la presse.
La presse, c'est dis-moi, un article d'André Duchesne. C'est bon, je ne l'ai pas nommé.
Ben là, vous l'avez fait. There must be some way out of here. Said the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
Le récent lauréat du Nobel de la littérature, M. Bob Dylan, avec All Along the Watchtower. All Along the Watchtower, d'ailleurs, qui a été reprise par Jimi Hendrix dans les années 60. Et bien des personnes qui pensent que c'est Hendrix qui l'a écrite.
Oui, parce qu'il a mis tellement son empreinte.
Oui, sa version était tellement différente.
Oui. Les deux versions sont très bonnes. Hein. Je pense que ça s'équivaut, mais en tout cas, c'est
j'aime
mon opinion.
Toujours, j'aime toujours revenir à l'original quand même, même s'il y a des versions très intéressantes.
Je suis assez d'accord.
Ouais, ça prend un point de départ, puis c'est l'original.
C'est vrai. Alors, Daniel, vous nous amenez, c'est le cas de le dire, hein, parce qu'il y a des
ça
musiciens
en voyage.
qui font des tournées, et qui tournent et qui tournent et qui tournent.
Oui, c'est un article que j'ai trouvé dans Le Figaro. Ça s'intitule « Et les musiciens les plus voyageurs sont », parce qu'on parle souvent des musiciens qui sont toujours en tournée et tout ça.
Est-ce que c'est un quiz?
Non.
Est-ce qu'on peut tenter
moi, j'aurais perdu si ça avait été un quiz.
Ah oui?
Il y a eu des surprises là-dedans, effectivement. Le site s'appelle Travelbird. Et on dit, le site de voyage Travelbird dévoile le palmarès des artistes qui ont parcouru les plus longues distances durant leur tournée. Le résultat est surprenant. Les plus jeunes sont plus globetrotteurs que leurs aînés dans la carrière. Peut-être qu'il y a une question de facilité de transport aujourd'hui aussi. Hein. Je vais dire ça pour les excuser.
Oui.
Les musiciens sont parmi les plus grands globe-trotteurs de la planète. Et si l'on cumulait les kilomètres effectués par les plus fameux artistes au cours de leur tournée, cela équivaudrait souvent à la distance de la Terre à la Lune. Pourtant, personne n'est allé jouer sur la Lune encore, mais peut-être qu'un jour. Pour connaître le kilométrage exact de ces hardis aventuriers, le site Travelbird a dévoilé un classement inédit des musiciens ayant le plus voyagé au monde. Le média a calculé la distance totale parcourue par 36 des plus grands artistes internationaux, tout genre et toute génération confondues, au cours de leur tournée. Surprise, ce ne sont pas nécessairement les groupes les plus anciens ni les plus populaires qui arrivent en tête. En effet, les DJ Tiesto, que je ne connais pas, et Paul Van Dyk se hissent respectivement en première et deuxième position, suivis de près par les légendes du rock Bob Dylan, Metallica et Aerosmith.
Ah, les Rolling Stones ne sont pas dans le palmarès.
Ils sont dans le palmarès, mais ils sont plus loin.
Ah, d'accord.
Surprenant, mais... Ayant effectué leur première tournée dans les années 1990, les deux disques jockeys affichent chacun près de 2,5 millions de kilomètres au compteur, soit l'équivalent d'un peu plus de 6 allers-retours entre la Terre et la Lune, ou une soixantaine de tours du monde. C'est quelque chose quand même.
Ça, c'est, village.
Ça, c'est souvent dans les avions à se faire fouiller, à faire ouvrir nos valises.
Ouais.
Ça, juste à y penser, ça me donne. En tout cas. Les groupes de rock Metallica, qui arrivent en quatrième position, et Aerosmith, cinquième, suivent avec respectivement 2,1 et 1,8 millions de kilomètres. Les Rolling Stones ont parcouru 42 tours du monde, quand même. Mais eux, ça fait à peu près 50 ans. On comprend qu'ils ont eu le temps de prendre des petites pauses.
Ils ont commencé jeunes et ils continuent.
Ça, ouais. Les amateurs de hip-hop noteront la présence de Snoop Dogg, qui arrive en 10e, Rihanna, 16e, Beyoncé, 19e, Jay-Z, 21e ou encore Kanye West, 26e. Seul francophone à figurer dans la liste, le Belge Stromae, qui se glisse en 32e position du classement. À noter la présence de jeunes artistes ayant débuté dans les années 2000 comme Justin Bieber, 27e, The Weeknd, 33e et Adele, 34e. Quand même, il ne fait pas beaucoup d'années d'Adele qu'on entend parler.
Céline n'est pas là?
Non, Céline, justement, en lisant l'article, ça me faisait penser qu'elle, elle a eu, dans le fond, l'opportunité d'inviter le monde à venir l'écouter chez elle. On se fait construire une salle de concert et on dit à tout le monde, venez, moi, je suis tanné de l'avion.
Mais ça, c'est après avoir fait sa tournée mondiale et avoir
C'est fait connaître quand même.
Elle dit, René, moi, je suis fatiguée.
Oui, mais il y en a plusieurs autres là-dedans, j'imagine, qui auraient eu la notoriété pour le faire aussi, je suppose. Bon. On dit les groupes Muse, 6e, et U2, en 8e position, pourraient se rendre 4 fois sur le satellite de la Terre, soit un trajet 2 fois plus grand que celui de David Bowie, qui arrive en 14e, et Pink Floyd, qui arrive en 15e. Dans l'éternel duel Beatles-Rolling Stone, c'est le groupe de Mick Jagger et de Keith Richards, aujourd'hui fringant septuagénaire, qui l'emporte. Question de longévité aussi, là. On comprend que la carrière des Beatles a été plus courte. Les Stones, en 7e position, quand même, on n'en parlait pas au début de l'article, là, mais 7e, ont parcouru 1,7 million de kilomètres depuis leur début en 1962, contre 154 288 kilomètres seulement pour les Fab Four, qui arrivent en 35e position. Il est vrai, les Beatles se sont séparés en septembre 1969, il y aura bientôt un demi-siècle. Et en deuxième partie, je vais vous parler, j'ai trouvé justement un article qui parle des Beatles il y a 50 ans, et ça va expliquer un petit peu ceci. Thank you.
Serge, vous revenez sur le typhus, mais vous allez terminer avec l'espoir, puisqu'on a trouvé un vaccin.
Oui, absolument, absolument. Parce que quand on regarde les ravages causés par le typhus pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre, c'est assez effrayant. Pendant la Première Guerre mondiale, le typhus a causé la mort de 3 millions de personnes en Russie et davantage en Pologne et en Roumanie. En Serbie, on parle de 150 000 morts à ce moment-là. Et c'est ça, c'est dans, comme je vous disais, certains historiens affirment que la maladie peut servir de modèle d'armes biologiques et bioterroristes. Alors, c'est, durant la Deuxième Guerre mondiale, le typhus a frappé l'armée allemande quand elle a envahi la Russie en 1941. Et en 1942-43, le typhus a frappé particulièrement sévèrement l'Afrique du Nord française, l'Égypte et l'Iran. Alors, évidemment, on s'est mis à la recherche d'un vaccin assez... on a dit, faut arrêter ça.
Est-ce qu'on dit la typhus ou le typhus?
Le typhus.
OK, d'accord.
Oui, 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 oui. Alors, la première étape cruciale du développement du vaccin a été la découverte par Charles Nicoll à l'Institut Pasteur de Tunis en 1909 que les poux étaient le vecteur du typhus épidémique. Cette avancée a permis d'isoler les bactéries responsables de la maladie et de mettre au point un vaccin. Le prix Nobel de médecine et de physiologie lui a été attribué en 1928 pour ses travaux. Nicoll a expérimenté un vaccin, mais n'a pas réussi à en fabriquer un qui soit utilisable à grande échelle. Enrique Daroca Lima avait prouvé en 1916 que la bactérie Rickettsia provatki était l'agent responsable du typhus. Il l'a baptisé d'après les noms de H.T. Rickletts et de Stanislas von Provazek, deux zoologistes décédés d'un contact très proche avec la maladie en étudiant une épidémie de typhus. Une fois ces faits cruciaux établis, Rudolf Weigl pouvait élaborer en 1930 une méthode de production d'un vaccin pratique et efficace utilisant le broyat des intestins de poux infectés. Oui, oui. Mon Dieu, c'est pas gros.
C'est pas gros.
C'est pas gros, un poux infecté. Un intestin de poux. Il était cependant très dangereux.
Est-ce que ça faisait une coloscopie avant?
C'est vrai, ouais. Il était cependant très dangereux à produire car il présentait un risque très élevé de contamination pour les scientifiques qui travaillaient à sa fabrication. Une méthode plus sûre et plus adaptée à la production de masse utilisant des œufs embryonnés a été développée par Harold R. Cox en 1938 et ce vaccin a été largement utilisé depuis 1943, donc depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pardon. Alors voilà.
Oui, j'ai encore l'image du poux et de
ça. Ouais, ben oui, l'intestin de poux, là, c'est bonne celle-là.
Daniel, propos Beatlesque.
Oui, bien justement, tantôt, à la prochaine partie, je vais vous parler des Beatles. Mais entre-temps, en 1966, les Beatles avaient un petit peu créé une controverse, bien plusieurs controverses aux États-Unis, avec l'histoire de Lennon qui avait déclaré We are more popular than Jesus Christ, etc. Mais en plus, il y avait un album qui avait été publié seulement en Amérique, qui s'appelait Yesterday and Today. J'ai trouvé un article qui en parle ici. L'article s'appelle « Quatre garçons dans la viande
». Non, dans le vent.
Oui. En 1966, les Beatles en avaient déjà marre de jouer le jeu des enfants sages. C'est ainsi qu'est né le plus scandaleux visuel de disque. C'est sur l'insistance de Paul McCartney que cette photographie, qui n'a jamais été conçue pour illustrer une pochette d'album, ni même pour être appréciée seule dans les deux autres parties du triptyque, illustrera « Yesterday and Today », un disque uniquement réalisé pour le marché américain regroupant plusieurs titres préalablement publiés en Angleterre. Mis en bac le 20 juin 1966, l'album est précipitamment retiré des ventes par Capitol Records après une pluie de plaintes de disquaires effarés, puis remplacé par une version illustrée par un cliché bien plus sage, ironiquement réalisé par le même Robert Whittaker. Il va de soi que la pochette originale, qui sera rééditée à l'occasion d'un coffret publié dans les années 2000, est rapidement devenue un objet de collection très recherché. Bien qu'il soit connu pour des clichés d'artistes aussi variés que Mick Jagger ou Salvador Dali, le Britannique Robert Whittaker restera dans l'histoire de la musique comme l'homme qui a réalisé la scandaleuse pochette des bouchers pour des Beatles. On voit sur la photo les Beatles qui sont avec des sont habillés d'un sarrau blanc avec des morceaux de viande tranchée, oh. des morceaux de poupées découpées. Oh, en tout cas,
oui.
c'était...
Il me semble que ça leur semble... ça non, leur non, ressemble c'était... pas
ça
du
va...
tout, du tout.
Ça va pas, mmh. comme on dit, ça va pas rapport. Mmh. On comprend que c'est un petit peu une idée de fou qui leur est passée par la tête. Et ce qui est quand même assez cocasse, c'est que l'autre pochette qui l'a remplacée, on voyait John Lennon, George Harrison et Ringo Starr debout appuyés sur une malle qui était debout avec Paul McCartney assise dedans. Et toute la controverse qu'il y a eu pendant des années, là, Paul McCartney is dead, il est remplacé par un sosie. Ça, c'était comme un des signes aussi. On voyait Paul dans un... C'était tout des symboles. Paul était dans un cercueil sur cette pochette-là. Paul était ailleurs. Donc, il y avait toujours un lien à un moment donné. Leur pochette suscitait beaucoup, beaucoup.
La pochette où ils traversent la rue aussi.
Oui, Abbey Road, c'est devenu... Puis pourtant, c'est arrivé ça d'un flash. Les gars étaient en train d'enregistrer. Bon, on sort dehors pour une photo. Bon, on règle la patente, c'est réglé. Mais là, aujourd'hui, tout le monde qui va là se fait photographier sur Abbey Road.
Et à un moment donné, ils ont dit, bon, on va faire un album blanc, comme ça, on créera plus de controverses.
Effectivement, ça a créé d'autres controverses.
Oui, c'est vrai. Alors, on poursuit avec Serge Bradet et Daniel Lachance après la pause. Et puis, je salue encore une fois Isabelle Falardeau, qui sera de retour, on le souhaite en tout cas, on croise nos doigts, la semaine prochaine.
Son petit frère, il fait beau dans le métro,
et l'autobus,
peux-tu en dire autant dans ton auto? Papa, 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 il fait beau dans le métro, notre métro c'est le plus joyeux, et comme il chante, c'est tant mieux, vive le métro,
et l'autobus,
oui, il fait beau dans le métro.
Ça rappelle des souvenirs pour ceux et celles qui étaient vivants dans les années 70. Alors, c'est pas pour rien qu'on a fait jouer cette petite ritournelle. Vous allez nous parler des noms de stations de métro, Serge.
Exactement, exactement. C'était un article qui était dans le Journal de Montréal du dimanche 12 février et que vous m'avez fourni, Hélène, que vous m'avez apporté gentiment. Merci beaucoup.
Oh, ça me fait plaisir.
Et qui s'intitule « Le métro, véhicule de notre histoire ». Alors, petite introduction, ces inconnus aux noms célèbres. Qui étaient Lucien Lallier, François-Charles Stanislas Langelier ou Edwin Atwater? Combien parmi les Montréalais le savent? Probablement moins d'une personne sur mille. À force d'avoir une chose devant les yeux, on cesse de la percevoir. Les lieux et les noms familiers échappent à l'attention. Pour le Montréalais habitué au métro, impossible de jeter sur celui-ci le regard vif et curieux du touriste. Quand des étrangers nous affirment que notre métro leur semble beau, nous éclatons de rire tellement cela nous surprend. Mais nous ne rions plus lorsqu'ils s'enquièrent de l'identité des personnages en l'honneur desquels on a nommé les stations.
On n'a pas de réponse.
Non, notre ignorance nous gêne. Ce cahier du Journal de Montréal donne corps à un projet nécessaire de la Fondation Lionel Groulx pour faire connaître les gens derrière les noms de stations. Un projet initialement refusé, croyez-le ou non, par le comité du 375e anniversaire de Montréal. Bizarre, hein?
Je comprends.
Grâce à la participation de la STM et de Québécois, 28 plaques commémoratives dans autant de stations donneront néanmoins au public à voir et à apprendre. Aussi, la passerelle de la station Place des Arts abrite, jusqu'à la fin de l'année 2017, une exposition au sujet de ces personnages aussi méconnus que leurs noms sont familiers. Ça, j'ai hâte d'aller voir ça. Une histoire sans personnages rappelle une maison vide. C'est très bien comme image. On a beau en étudier le plan, en visiter les pièces, en mesurer les dimensions, rien ne s'anime, c'est abstrait. En revanche, tout personnage historique, même mineur, transporte avec lui et fait vivre en nous toute une époque. Merci à la Fondation Lionel Groulx, à la STM et à Québecor de nous permettre de renouer avec notre histoire. Merci à l'historien officieux de la STM, Benoît Clairoux, lui-même auteur de livres au sujet du métro et du stade, pour ses suggestions d'anecdotes et de stations. C'est un article de Louis-Philippe Messier dans le Journal de Montréal. Donc, commençons. Je vais vous parler de ça durant probablement 2, 3 ou 4 semaines parce qu'il y a beaucoup de stations de métro à Montréal. La ligne verte. La ligne verte porte mal sa couleur. Savez-vous pourquoi?
Non.
Ben, noir serait plus approprié. En effet, elle est noire de monde. Alors bon.
Ça commence avec une petite blague.
Oui. Les deux stations les plus achalandées s'y retrouvent. Quelles sont-elles? Ah ah! Quelles
sont-elles? Sur la ligne verte?
La ligne verte qui part de Neuilly-Beaugrand.
Bonaventure, elle doit être très achalandée.
Dans les patates.
Ah oui. Berry.
Gagnant. Ben, Berry est...
Gagnant, il en manque une.
Wow, mais Berry, elle touche toutes les lignes.
Ben, c'est ça,
Lionel
mais c'est
Groulx?
La non.
Non?
Non. McGill.
Ah, ah oui.
Mais un total de 108 834 603 passages, pas personne, mais des passages, enregistrés dans ces stations en 2016, McGill et Berry-UQAM. Son gros défaut de fabrication, les stations Préfontaine et Joliette, qui débouchent sur le boulevard Hochelaga, où il ne se passe pas grand-chose, au lieu de l'avenue Ontario plus au sud, où la promenade du même nom aurait été galvanisée par l'afflux du monde. Et c'est vrai, c'est m'est arrivé de sortir à ces stations-là, puis elles sont loin de Sherbrooke et, et d'Ontario, alors c'est un peu dommage.
Ceux qui habitent autour sont contents.
Ah oui, ça pas, c'est toujours oui. Alors commençons, première station, Atwater. Edwin Atwater a vécu de 1808 à 1874. C'est un homme d'affaires et politicien. Il est une figure marquante de la vie publique montréalaise au 19e siècle. Il participe à la fondation de la Compagnie du Télégraphe et de la Banque d'épargne de la cité et du district de Montréal. Banque qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été fusionnée avec, je ne sais pas laquelle, quelle autre banque, je ne me souviens pas.
À suivre.
À suivre. Il est aussi échevin du quartier Saint-Antoine et dirige la commission de l'aqueduc et le bureau de commerce de la ville. L'inauguration de la station Atwater s'est faite le 14 octobre 1966 et le nombre de passages en 2016 est de 6 920 633 personnes. Et Atwater, qui contient le mot anglais « water », est un aptonyme. En effet, une gigantesque conduite d'eau passe sous l'avenue. Jusqu'en 1978, cette station était le terminus de la ligne verte.
Ah. Oui, je me souviens de ça, mais c'était le Forum de Montréal.
Exactement.
On prenait le métro à Atwater pour aller au Forum.
Aller voir Bob Dylan, entre autres.
Led Zeppelin.
Wow! Les Beatles ont-ils joué au Forum?
Oui, mais j'étais trop jeune.
Ils ont joué au Forum?
Oui, en 65, je pense.
Ah oui?
Deux fois.
Mm-hmm. Oh,
ouais,
bon.
Mais Led Zeppelin, c'était en 72.
Mémorable.
Oui. Honoré Beaugrand. Les usagers n'en ont pas conscience, mais c'est dans les parages de cette station que se trouve un immense atelier et un garage souterrain de la SDM. Honoré Beaugrand, 1848 à 1906. Militaire, journaliste, propriétaire de journaux, homme politique et écrivain. Il est maire de Montréal de 1885 à 1887, au moment de l'affaire Riel, et d'une grave épidémie de variole. Tout jeune, il combat au Mexique dans l'armée de l'empereur Maximilien. Il y a eu un empire durant quelques années au Mexique. C'est une période qu'on ne connaît pas beaucoup, mais c'est vrai.
Un autre sujet de chronique.
Oui, À son retour, il fonde le journal La Patrie en 1879. Reconnu avant tout comme écrivain, il reste pour la postérité l'auteur de... La chasse-galerie, légende canadienne.
Ah oui,
c'est lui. Oui.
Il en a fait des choses, ce monsieur.
Oui. Inauguration le 6 juin 1976 et le nombre de passagers, presque 5 millions en 2016. Cadillac.
Oui.
Pas l'auto, quand même.
Pour la voiture? Ben, non. Antoine Lomé, dit Delamotte Cadillac, 1658-1730. Militaire et explorateur français, il est l'un des personnages les plus colorés et controversés de la Nouvelle-France. Commandant de Micheli Mackinac, ne me demandez pas de le prononcer.
En 1600...
s'il vous plaît.
Micheli Mackinac. En 1694, il fonde en 1701 le fort Pontchartrain, où est édifiée aujourd'hui la ville de Détroit, au Michigan.
Ah.
Ouais, c'était loin. Rentré en France après avoir été gouverneur de la Louisiane en 1713-1716, il est, jusqu'à son décès, gouverneur de Castelsarrasin en Tarn et Garonne. L'inauguration de la station en 6 juin 1976. Nombre de passagers, 2 273 000.
Quand même.
Pas trop pire. Vous en voulez d'autres encore? On a le temps?
Ah oui.
Oui. Charlevoix. Cette station est la plus basse de tout le réseau de métro. Elle est à 29 mètres sous la rue, 14 mètres sous le niveau de la mer. Cette profondeur extraordinaire s'explique par la mauvaise qualité du sol. Alors, Pierre-François-Xavier de Charlevoix, 1682-1761. Jésuite, voyageur et historien français, il explore entre 1720 et 1722 l'intérieur du continent nord-américain et atteint la Louisiane et l'embouchure du Mississippi. Auteur d'une monumentale histoire et description générale de la Nouvelle-France en 1744, qui puise notamment dans ses observations, il est souvent présenté comme le premier véritable historien de la Nouvelle-France. Son œuvre marquante et son siècle influencent la génération ultérieure d'historiens québécois. Et la station, inauguration en 1978, nombre de passagers, presque 2 millions. 1 850 000.
Alors, ce ne sont pas toutes les stations qui ont été inaugurées en 1966.
Non, ça a été la ligne verte de Frontenac à Atwater.
Atwater.
Et la ligne orange de Henri Bourassa à Bonaventure.
Mmh. Ouais. Et la ligne jaune.
La ligne jaune du...
Parce que pour l'Expo 67, la ligne jaune, je pense que c'est la première qui avait été mise en service.
Et oui, Charlevoix a donné son nom aussi. On a utilisé son nom pour nommer la région Cybelle.
De Charlevoix.
Ouais.
Oui.
Attention, le service est rétabli sur la ligne orange entre les stations Henri Bourassa et Côte-Vertu. La STM vous remercie de votre compréhension.
One for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. The tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car,
I'll tax the street.
If you try to sit,
I'll tax your seat.
If you get too cold,
I'll tax the heat.
If you take a walk,
I'll tax your feet.
Don't ask me what I want it for.
Taxman, bien sûr, des Beatles.
Oui.
C'est vrai que ça sonne comme Batman.
Effectivement, et George Harrison avait déjà dit que c'était inspiré du thème de l'émission Batman qui jouait dans les années 60.
On le croit.
65, je pense.
Avec le vrai Batman, Adam West.
C'est ça. Puis en plus, Taxman, c'est que les Beatles, à l'époque, ils s'étaient fait ramasser pas mal par l'impôt. Hein. En Grande-Bretagne, l'impôt est assez rough avec
d'où cette chanson.
Oui, donc c'était son message pour l'impôt. Puis l'autre chose à faire remarquer aussi, une petite parenthèse courte, c'est très rare que George Harrison réussissait à avoir une chanson de lui sur un album des Beatles. C'était pas mal toujours Lennon-McCartney. Fait quand il réussissait à en plugger une, c'était un événement.
Et c'est dommage parce que toutes ces chansons sont bonnes à George Harrison.
Oui, puis d'ailleurs, quand les Beatles se sont séparés, dans la même année, George Harrison a sorti un album triple. Ça veut dire qu'il y en avait long...
À dire, à chanter.
Il y en avait long, c'est le cœur.
Oui, beaucoup de créations, là.
Ouais. Et ça m'amène justement à un article que j'ai trouvé qui dit « Il y a 50 ans, ça date quand même du mois d'août, ça date de quelques mois, mais je trouvais ça important parce que ça suivait un peu l'autre article que j'ai lu tantôt. Il y a 50 ans, les Beatles offraient leur dernier concert à Toronto. C'est un article qui est paru sur ici radio-canada.ca. Le 17 août 1966, les quatre membres du groupe britannique mythique The Beatles jouaient ensemble à Toronto pour une des dernières fois, 12 jours avant d'annoncer qu'ils ne feraient plus de tournée ensemble, en 1966. Donc, quand on disait tantôt, c'est probablement ceux qui avaient voyagé le moins. Les Beatles sont venus la première fois en Amérique du Nord en 64. Février 64, ils sont venus au Ed Sullivan Show. Et en 66, ils arrêtaient de faire des tournées. Donc, c'est comme deux ans et quelques mois. C'est pas tout à fait la carrière des Rolling Stones, on s'entend.
Pas tout à fait, non.
Pour marquer ce 50e anniversaire, un groupe de Toronto a reproduit le concert intégral de l'époque à l'endroit même où il s'était produit, le défunt Maple Leaf Gardens. Le maire de Toronto, John Tory, a assisté au concert de 1966 avec 17 000 autres personnes. Il dit « Je me rappelle d'avoir vu des douzaines de jeunes, la plupart de mon âge, assis ou couchés sur des civières. Ils s'étaient évanouis », se rappelle le maire de Toronto, qui n'avait que 12 ans à l'époque. Quand on parlait de la Beatlemania, c'était très, très impressionnant. Je ne suis pas sûr qu'on peut voir des choses aussi intenses aujourd'hui. Folle. Probablement que oui, mais peut-être parce que c'était trop nouveau aussi, on voyait pas ça.
Puis on pouvait pas vraiment profiter du spectacle parce que les gens criaient tout le long.
Et c'était une des raisons pour lesquelles ils ont arrêté de faire de la tournée. Ça donnait rien, ils jouaient, ils s'entendaient pas eux-mêmes. Ouais. C'était malade.
Frustrant.
En entrevue avec le réseau CBC, il a dit se souvenir de la frénésie créée par le passage des Beatles. On pouvait les voir, mais on pouvait à peine les entendre à cause des cris de la foule. Le maire raconte que des milliers de personnes étaient en ville pour assister au concert. Il ne se doutait pas que ce seraient ces mêmes cris qui allaient, en partie, pousser les Beatles à cesser leur tournée moins d'une semaine plus tard. L'arrivée des Beatles à Toronto s'est faite sous tension. Le fameux commentaire de John Lennon sur « les Beatles, qui étaient plus grands que Jésus », commençait à faire réagir en Amérique du Nord. Dans certaines villes américaines, les ventes de leurs billets de concert chutaient tellement que certains médias affirmaient que la Beatlemania était terminée en 66.
Elle ne faisait que commencer.
Il était très visionnaire. En conférence de presse, à Toronto, George Harrison avait rejeté cette hypothèse soulevée par un journaliste. « Il n'y a pas de signe que notre popularité chute. Nous vendons encore des disques et des billets. Ce n'est que votre opinion. Et si notre popularité diminue, on sera les derniers à s'en formaliser », avait dit Harrison, une pointe d'agacement dans la voix. Mais les fans à Toronto ne se doutaient de rien et se sont présentés par milliers. À l'époque, un billet coûtait... Avez-vous une idée? Un billet pour aller voir
en
les
Beatles? En
66?
Ouais.
15 $? 20 $?
5 $.
Ouais. 4,
hein?
Ouais. 4 5? À 5 $.
Aïe, aïe!
On comprend que les revenus étaient beaucoup moins élevés à l'époque, mais quand même, quelqu'un qui dit « je vais aller voir les Beatles, ça m'a coûté 5 $
». En 66?
J'espère qu'il a gardé la moitié de son billet. Ça vaut beaucoup plus cher que
le billet
complet.
En
1966.
5 $ en 66?
Je travaillais pas à cette époque-là. J'étais paresseux.
Ouais, moi, je sais pas
les salaires, c'était combien.
Hey, ça n'a rien à voir avec le coût des billets d'aujourd'hui. Hein?
Non, aujourd'hui, voir les Rolling Stones, exemple, ou un groupe comme ça, c'est dans les 350 $ et plus.
C'est beaucoup de 5 $.
C'est plus qu'une semaine de salaire. Ceux qui n'avaient pas réussi à se procurer de billets se sont massés à l'extérieur du Maple Leaf Garden dans l'espoir de voir leurs idoles. Pour marquer ce 50e anniversaire, un concert commémoratif est organisé dans la salle où les Beatles ont joué. Bon, on en a parlé tantôt. Le groupe qui a présenté le concert s'appelle Classic Album Lives, un groupe qui se spécialise dans les reprises de chansons qui ont marqué l'histoire de la musique et qui joue le même programme que celui offert par les Beatles il y a 50 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui s'en souvenait de toute façon du programme, mais bon. En plus de quelques grands classiques du groupe, la ville Rennes organise également une exposition appelée « When the Beatles Rocked Toronto » qui revient sur différents aspects de la ville dans les années 50 et 60. L'événement est présenté au Market Gallery sur le marché Saint-Laurent jusqu'au 12 novembre. Et j'ai le calendrier ici de la dernière tournée des Beatles qui ont fait une quinzaine de concerts en Amérique. Le dernier de tout, c'était lundi le 29 août 1966 à San Francisco au Candlestick Park. Après, ça a été fini. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ont arrêté. C'est sûr que les cris, quand tu fais un concert, tu n'es même pas capable de t'entendre jouer, chanter.
C'est pas très agréable.
Une autre raison aussi, c'est qu'ils étaient allés jouer à Manille, aux Philippines. Et ça s'était très mal passé. Ça, j'en parlerai peut-être à un moment donné. Ils avaient été invités par Imelda Marcos à l'époque, la première dame, la femme de Ferdinand Marcos. Oui. Et ils ont décliné l'invitation. Ils ont joué deux concerts, mais ils ne sont pas allés à la réception. Et ça a très mal tourné. L'armée était après eux autres. Ils ont eu de la difficulté à l'aéroport. Les membres de leur équipe ont été battus. En tout cas, ça a été, je pense que ça les a vraiment traumatisés. Et après ça, ils avaient toujours peur en concert. Surtout que tu entends seulement des cris tout le temps. Tu sais pas trop si c'est agressif ou...
Donc, ils ont arrêté la tournée, mais ils ont continué à chanter en Grande-Bretagne.
C'est ça. En fait, je pense que le seul concert qui n'en était pas vraiment un, c'est quand ils ont joué sur le toit de Abbey
Road. En 70.
C'est ça qu'on peut voir dans le film Let It Be. Ils jouent 4 ou 5 chansons sur le toit. Et d'ailleurs, les polices étaient venus les arrêter. C'est quelque chose qu'ils avaient fait spontanément. Ça avait comme un peu congestionné la circulation à Londres. C'était assez spécial. Donc, c'est ça. Il y a quand même... Et il y avait aussi l'idée que... La même année, quand ils ont sorti l'album Revolver, les chansons qu'il y avait sur le nouvel album, ça ne pouvait pas vraiment se faire en concert. C'est trop élaboré pour 4 musiciens. Aujourd'hui, on voit des Pink Floyd et compagnie qui font des tournées. Pink Floyd sont 4, mais ils sont 12 sur la scène quand ils font un concert. Donc, ils essaient de reproduire exactement ce qu'ils ont fait en enregistrement. Même les Beatles ne concevaient pas ça de cette façon-là.
Est-ce que Revolver est considéré comme un bon disque?
Oui, oui. C'est un disque qui a quand même amené pas mal de changements. On parle de peut-être un petit peu la nouveauté, la musique un peu à tendance psychédélique, des chansons comme Tomorrow Never Knows.
Ça commençait.
Oui, c'était assez différent. Eleanor Rigby aussi, qui était seulement avec un quatuor à cordes. C'était assez différent de ce qu'on avait entendu des Beatles avant.
Je me rappelle, si tu permets, la petite anecdote. La reine avait décoré les Beatles du British Empire.
Oui, oui.
Et ça avait fait un scandale. Il y a des gens, des membres qui avaient été décorés de ça, qui avaient retourné leur décoration à la reine, disaient c'est une insulte au British Empire.
Ouais,
alors,
absolument.
Le British Empire a décoré les Beatles, puis ça avait
été... Et Paul s'appelle Sir.
Oui, c'est Sir Paul McCartney.
Il était en oubli.
Oui, après ça, plus tard.
Together. C'est sur quel album, ça?
Ça, c'était sur Abbey Road, le dernier.
Merci. Serge, on continue avec les métros, les stations de métro. Lionel Groulx?
Oui, c'est-à-dire que c'était dans le Journal de Montréal, il y a un article sur la grande aventure de la Fondation Lionel Groulx.
Ah oui, d'accord.
Oui. Alors, je vais vous lire ça pour souligner, parce que c'est eux qui ont un peu mis de l'avant cette exposition-là, pour souligner le 375e anniversaire de Montréal. La Fondation Lionel Groulx, de concert avec la STM et Québécois, a installé des plaques commémoratives sur les quais des 28 stations du métro qui portent le nom d'un personnage important de notre histoire et présente pendant toute l'année 2017 une importante exposition à leur sujet à la passerelle des arts au métro Place des Arts. Moi, j'ai commencé à en voir de ces plaques-là dans différentes stations. En réalisant ce projet intitulé « Le métro, véhicule de notre histoire », en tenant à la Grande Bibliothèque des conférences sur les figures marquantes de notre histoire, diffusées à MATV, en soutenant des événements comme la Journée nationale des patriotes et des mouvements comme la Condition pour l'histoire et les partenaires pour un Québec français, notre fondation assume sa mission qui est de promouvoir l'histoire de la langue et de la culture de la nation québécoise. Pourquoi le faisons-nous? Parce que l'histoire du Québec, riche de plus de 4 siècles de réalisation et d'espoir, c'est notre histoire, notre héritage commun, notre grande aventure en Amérique. Parce que cette histoire, à bien des égards remarquables, mérite d'être racontée aux jeunes générations et à toutes les personnes qui viennent d'ailleurs pour l'écrire avec nous. La Fondation Lionel Groulx est un rassemblement de femmes et d'hommes qui ont le Québec au cœur et qui ont Québec à cœur et qui ont à cœur la promotion de son histoire. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour en savoir plus. FondationLionelGroulx.org. C'est un article de Parole de Jacques Girard, président et conseil, et Pierre Gavelin, directeur général de la Fondation Lionel Groulx.
Mm-hmm. Merci. Serge, la semaine prochaine, vous allez continuer à nous décortiquer les noms, nous parler des noms de chacune des stations de métro. Ça devait être passionnant à faire partie du comité qui décidait de comment va s'appeler telle station, telle station. Vous avez des perles pour nous.
Oui, des perles. Ça paraît dans ces perles des journaux d'outre-mer. Alors, c'est tiré de certains séries de journaux français, dont Dauphiné Actualité, Le Parisien, Ouest France... le Républicain Lorrain, le Paroissien de Lamballe, le Journal du Dimanche, tout ça. Alors, très gravement brûlée, elle s'est éteinte pendant son transport à l'hôpital.
Ah.
La conférence sur la constipation sera suivie d'un pot amical.
Ah! Bon appétit.
Non, mais c'est tiré par les cheveux, mais la personne n'a pas pensé...
Pas du tout. Des trous dans sa culotte laissaient entrevoir une famille pauvre.
Ah.
Parle-t-on des bijoux de famille ici?
C'est sûr, il devait être nombreux dans cette culotte.
Il y aura un appareil de réanimation dernier cri. C'est ça, c'est assez à quelque chose. En raison de la chaleur, les musiciens ne porteront... uniquement que la casquette de l'uniforme et rien d'autre.
Des nuvites à casquette.
Oui. Monsieur Jean C. remercie chaleureusement les personnes qui ont pris part au décès de son épouse.
Ah!
Des complices.
Oui. Ses dernières paroles furent un silence farouche. Les dernières paroles.
C'est bon.
L'église étant en travaux, ses obsèques ont été célébrées à la salle des fêtes. Ayant débuté comme simple fossoyeur, il a depuis fait son trou.
Non, ça c'est...
Mais tu réalises pas
par qu'est-ce que vous
sont. Tu te demandes, est-ce que c'est vraiment des phrases qui ont vraiment été écrites et...
Mais je pense que oui.
Oui, oui. Oui. C'est pas des inventions.
Non, j'ai entendu il y a pas longtemps les enfants de la télé... Gino Chouinard qui était là et qui lisait quelque chose, puis à un moment donné, tu te dis, comment est-ce qu'il a fait pour lire ça?
Sans rire.
J'ai pas le... Oui, sans... Ben non, il est parti sans rire après, mais il dit, je pense que je me suis... il dit, je pense que beaucoup de gens ont une image quand ils m'ont entendu lire ça, tu sais, puis...
Avez-vous d'autres?
Oh oui, bon, oui. Ses dernières paroles furent un silence farouche.
Oui.
Ah, je l'ai dit.
Oui, ça, je trouvais que ça, c'était familier, ça.
Comme il s'agissait d'un sourd, la police dut, pour l'interroger, avoir recours à l'alphabet braille.
Wow!
Détail navrant. Cette personne avait déjà été victime l'an dernier d'un accident mortel.
Il est assez résistant quand même.
Assez résistant.
Mortel, oui, c'est
ouais.
Ça.
Quand vous doublez un cycliste, laissez-lui toujours la place pour tomber.
Oh! C'est pas fin!
Non. Je pensais de m'en souvenir.
Oh. Une dernière, Serge.
Tombola de la Société bayonnaise des Amis des Oiseaux, le numéro 5963, gagne un fusil de chasse.
Bravo pour les oiseaux.
À aucun moment, le Christ n'a baissé les bras.
Merci Serge et merci Daniel. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.